Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous. Avant le week-end, merci de débuter votre journée en notre compagnie sur la voix de l'Amérique. En direct de Washington, depuis le studio 13, Nicolas Pineau avec vous. En Centrafrique, nous parlerons de la société civile qui appelle les forces Miska et Sangaris à respecter leur mandat. Les anti-Balaka rejettent les accusations sur leur implication dans les violences. Reportage à suivre de notre envoyé spécial Bagassikoura. Les infirmiers en grève dans le Nord Kivu. Retour aussi ce matin sur l'application de la peine de mort en Afrique. Et les progrès de l'AMISOM en Somalie. Son représentant, le Tchadien Mahamat Saleh Anadiv, sera notre invité. Mais tout d'abord, le journal. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Bonjour à tous. En Guinée, la crainte de la propagation du virus Ebola est désormais réelle. 4 cas de fièvre Ebola confirmés à Conakry par les autorités sanitaires guinéennes. Une cinquième personne est morte avant les tests laboratoires. Au total, la Guinée enregistre 103 cas suspects de fièvre hémorragique, dont 66 décès. Et les nouvelles contaminations signalées dans la capitale sont survenues après l'inhumation d'un malade décédé. Les derniers détails tout de suite avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Selon le ministère guinéen de la Santé, Conakry enregistre les premiers cas de fièvre hémorragique à virus Ebola. Les malades ont été admis à l'hôpital Donka il y a 2 jours. Les examens viennent d'être confirmés, un malade est décédé et les autres sont gardés dans un centre d'isolement de l'hôpital. Les services sanitaires guinéens affirment que les 4 personnes encore vivantes ont été contaminées lors de l'inhumation des malades décédés. Ces cas mettent Conakry parmi les zones touchées par l'épidémie. Cas suspect de Kankan s'est révélé négatif aux examens Ebola, précise un communiqué du ministère de la Santé. Depuis les 2 premiers cas suspects, les habitants de la capitale vivent dans une grande inquiétude. Les comportements ont vite changé. Nombreux sont ceux qui évitent de serrer la main. Dans plusieurs endroits, l'utilisation de gel antibactérien est une obligation. Conakry, Zakaria Camara pour la Voix de l'Amérique.
Crise en Centrafrique, la chef de la diplomatie européenne, Catherine Ashton, s'est alarmée jeudi de l'escalade de la violence ces derniers jours en Centrafrique et a appelé la communauté internationale à agir rapidement. De son côté, la société civile demande aux forces internationales de recadrer leur mission. Face au regain de violence, ces derniers jours à Bangui, entre anti-Balaka et les forces Miska et Sangaris, les responsables de la société civile appellent au respect des résolutions 21-27 et 21-34 des Nations Unies, comme nous l'explique Idriss Fall.
Les responsables de la société civile ont tenu ce jeudi une conférence de presse à Bangui. C'est pour tirer la sonnette d'alarme selon Gervé Lakoso, coordinateur du groupe de travail qui estime que la déclaration de guerre faite par la Miska aux anti-Balaka est une erreur grave.
Le général Moukoko s'est gravement trompé. Dire qu'il déclare la guerre aux anti-Balaka, c'est une erreur monumentale parce que c'est marqué nulle part dans ses mandats qu'il devait faire la guerre aux anti-Balaka, aux Seleka, ni à qui que ce soit en République centrafricaine.
Elle se propose une médiation entre les belligérants pour le retour de la paix dans le pays. Par ailleurs, au terme de sa mission de 4 jours à Bangui, Vincent Mavungu Buyu, président du Parlement de la CEMAC, a estimé que la crise centrafricaine ne peut être réglée que par les centrafricains eux-mêmes.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Voix de l'Amérique. Charles Blé Goudé clame son innocence. Les premiers mots de l'ex-leader des Jeunes Patriotes ont été prononcés hier lors de sa première comparution devant la Cour pénale internationale. Depuis La Haye, celui qui est accusé de crimes contre l'humanité s'est dit confiant concernant l'issue d'un potentiel procès. On écoute Charles Blé Goudé.
Certaines opinions qui estiment, à tort ou à raison, qu'un voyage à la CPI est un voyage de non-retour, je pense qu'un citoyen qui est suspecté par la CPI peut venir ici, faire l'objet d'un procès, et s'il est innocent, peut repartir chez lui. Et je sais que je repartirai chez moi.
Charles Blé Goudé depuis La Haye, où se trouve également l'ancien président Laurent Gbagbo. Tous les deux sont poursuivis, je vous le rappelle, pour les exactions commises contre les civils durant la crise post-électorale de 2010-2011. De son côté, le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé hier à Yamoussoukro, la capitale politique du pays, où il doit présider à partir d'aujourd'hui le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. À Bamako, les 18 membres de la Haute Cour de justice ont prêté serment hier devant l'Assemblée nationale. Cela ouvre la voie à un éventuel procès pour haute trahison du président déchu, Amadou Toumani Touré, qui avait été renversé en mars 2012. ATT est notamment accusé d'avoir échoué en tant que commandant en chef des armées maliennes à empêcher des forces étrangères de s'emparer du territoire. Amadou Toumani Touré se trouve actuellement en exil à Dakar.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 5h35, temps universel. Les opérations de recherche des débris du vol de la Malaysia Airlines ont été déplacées de près de 1100 km au nord-est de l'endroit survolé jusqu'ici par les avions dans l'océan Indien. L'Agence australienne de sécurité maritime a annoncé ce matin disposer, je cite, d'une nouvelle piste crédible. Selon les derniers calculs, le Boeing aurait volé plus vite et aurait parcouru une plus courte distance depuis sa disparition. L'Ukraine a obtenu hier une promesse d'aide financière du Fonds monétaire international de 18 milliards de dollars, une assistance assortie de mesures d'austérité sévères. Dans le même temps, Lionel Gahima, l'ancienne Premier ministre Yulia Tymoshenko, s'est lancée dans la course à la présidentielle.
Aucun des hommes politiques ukrainiens qui se préparent à être candidat à la présidence ne prend la mesure de l'anarchie et n'est prêt à l'arrêter, a lancé Yulia Tymoshenko en annonçant sa candidature à l'élection du 25 mai. Elle a tiré à boulet rouge sur Vladimir Poutine en promettant de mettre fin à l'agression de la Russie. À 53 ans, celle qui est surnommée la Dame de Fer a été l'héroïne de la Révolution Orange, ennemie notable du président déchu Viktor Yanukovych, et vient de passer 2 ans et demi en prison. Au plan économique, le FMI compte ouvrir une ligne de crédit de 14 à 18 milliards de dollars qui s'ajoutera aux sommes mises sur la table notamment par Washington et Bruxelles pour un plan de sauvetage massif à hauteur de 27 milliards de dollars sur 2 ans. Mais le prêt du FMI sera assorti de sévères mesures d'austérité. D'ailleurs, Stefan Kubiv, le gouverneur de la Banque centrale ukrainienne, a averti que certaines réformes seront douloureuses, comme la hausse des prix du gaz de 50% pour les ménages dès le 1er mai, le gel de retraite et des salaires de fonctionnaires.
Au Venezuela, Nicolas Maduro semble accepter l'idée d'une médiation tripartite avec l'opposition. Le président vénézuélien semble suivre ainsi la recommandation d'un groupe de travail composé d'officiels vénézuéliens, de membres de l'opposition et de ministres sud-américains des affaires étrangères. Aucun détail sur ces pourparlers ou sur le nom du médiateur n'a filtré. Après un long périple européen, le président américain Barack Obama est en visite aujourd'hui en Arabie Saoudite. Au centre de ses discussions avec le roi Abdallah, la Syrie, les troubles dans la région et l'impasse dans les pourparlers de paix au Moyen-Orient. On voit ça avec Michel Joseph.
La visite du chef de l'exécutif américain coïncide avec des tensions croissantes dans les relations avec les États-Unis et de sérieux désaccords entre les nations du Moyen-Orient au sujet de la guerre civile en Syrie, qui reste sans solution 3 ans plus tard. Selon un diplomate américain basé en Arabie Saoudite, M. Obama veut des progrès sur toute une série de questions sécuritaires, dont la situation en Iran et en Syrie, les pourparlers israélo-palestiniens et la lutte contre l'extrémisme violent. Pour la chaîne Al Arabiya, basée en Arabie Saoudite, les résultats de la rencontre Obama-Abdallah pourraient renforcer la stabilité et la prospérité à travers la région.
Et puis enfin, une semaine après Twitter, le gouvernement turc a ordonné hier le blocage du site de partage de vidéos YouTube. Cette mesure intervient après qu'un enregistrement audio présenté comme une conversation entre des hauts responsables turcs évoquant une possible opération militaire en Syrie n'ait été diffusé. L'authenticité de ce document n'a pas pu être confirmée. Suite de notre émission Le Monde aujourd'hui, de retour avec vous Nicolas Pineau pour cette deuxième partie et nous reparlons de la République centrafricaine. La force africaine MISCA accuse ouvertement les anti-Balaka d'être à l'origine des dernières violences dans le pays, notamment dans la capitale. Des violences qui ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Bagassi Koura, notre envoyé spécial à Bangui, s'est rendu à Boyrab, l'un des fiefs des anti-Balaka. Ces derniers accusent au contraire la MISCA d'être à l'origine du regain de tensions. Reportage.
Ce jeudi après-midi, l'ambiance semblait redevenue normale au marché de Boyrab, situé au nord de la capitale centrafricaine. Ce quartier est réputé être le fief de la milice anti-Balaka. C'est ici que nous avons rendez-vous avec Brice Emotion Namzio, le porte-parole principal des anti-Balaka. Il rejette toute responsabilité de son mouvement dans la flambée de violence de ces derniers jours.
La population était mécontente. Elle était obligée de sortir le lendemain, barricader la route, juste pour montrer à l'opinion nationale et internationale leur mécontentement. Et chose grave, ces troupes burundaises étaient revenues encore le lendemain pour enlever cette barrière.
On le sait désormais, suite à ces incidents, le commandant de la force africaine, le général Mokoko, a déclaré la guerre aux miliciens anti-Balaka, considérés désormais comme des ennemis de la MISCA. Réaction de Brice Emotion Namzio.
Mais ce sont la MISCA, les éléments de la MISCA plutôt, qui sont les ennemis jurés du peuple centrafricain.
À l'hôpital communautaire, le grand centre hospitalier de Bangui, nous avons retrouvé certaines des victimes de ce week-end. Yaouté Junior, 19 ans, a été évacué de Boali à 90 km au nord de Bangui. Cet élève de la classe de 6e affirme avoir été pris pour cible lundi dernier par des éléments de la MISCA RDC. Il souffre de plusieurs fractures à la jambe et au bras droit.
Nous sommes arrivés à moto à un checkpoint tenu par des éléments de la MISCA. Ils m'ont tiré dessus avec 6 coups qui m'ont fracturé la jambe et le bras.
Ces accusations vont sans doute rajouter à la tension déjà palpable entre les forces internationales et les milices centrafricaines. Bangui Bagasikoura, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Cap sur l'est de la République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu. Les hôpitaux et les centres de santé de Goma sont sans infirmiers depuis plusieurs jours. Ces derniers ont entamé une grève pour exiger la régularisation de leur salaire. En attendant, l'accès aux soins est limité, comme l'a constaté notre correspondant sur place, Primo Pascal Rudaigua.
Après avoir épuisé toutes les formules de revendication de leur salaire, les infirmiers de Goma et des environs ont décidé depuis mardi d'abandonner les hôpitaux et les centres de santé. Quelques habitants déplorent cette décision.
Ce n'est pas normal. Les gens qui se sont engagés pour sauver la vie des êtres humains se mettent en grève. C'est sûr, ils réclament leurs droits et nous en sommes conscients. Mais ils doivent savoir que la priorité, c'est ces vies-là qu'ils sont en train de sauver.
Nous regrettons fort à propos de la grève des infirmiers parce que les infirmiers sont là pour le service de malades. Vraiment, on ne sait pas comment on va prendre soin de ces malades.
Madame Françoise Etassimwa Rulinabo, syndicaliste de la zone de santé de Kiroche dans le territoire de Masisi, dit que toutes les conséquences de la grève des infirmiers pèsera sur le gouvernement congolais qui ne veut pas trouver des solutions urgentes à leurs revendications.
On nous a d'abord calmé en 2008 qu'il fallait attendre. Les numéros matricules sont là et dans un mois, la mécanisation est confirmée. Mais curieusement, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait.
Et qui sera responsable des conséquences de votre grève si les malades mouraient à l'hôpital?
C'est le gouvernement qui en serait responsable.
Le ministre national de la Santé, Félix Kabange Numbi, a réuni à Goma ses infirmiers pour tenter de les rassurer.
Aujourd'hui, qui sont en grève, en tant que ministre de la Santé, j'ai demandé aux infirmiers de reprendre le service. Parce que le gouvernement de la République, c'est un gouvernement responsable.
Ces infirmiers n'ont pas respecté le mot d'ordre du ministre. Ils attendent les conclusions de leur assemblée générale, explique Étienne Boulenda, président de l'intersyndicale des infirmiers au Nord Kivu.
Je ne veux pas vous dire que nous avons décidé de reprendre les activités. On ne peut les reprendre qu'après avoir consulté la base qui est en grève. Oui, la grève continue.
Ce qui est déplorable est que les enfants n'ont plus accès au vaccin et cela constitue un danger pour leur santé. Depuis Goma, Primo Pascal Rudaigua pour La Voix de l'Amérique.
Place à présent aux 100 citoyens journalistes en RDC. La Voix de l'Amérique s'associe à ce projet pour donner la parole aux Congolais. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur notre site internet www.lavoixdelamérique.com.
Fura Masimengo, citoyen journaliste de la VOA depuis Butembo. Un minibus a été pillé par des hommes non autrement identifiés ce mercredi 26 mars dans les tronçons Goma-Butembo. Ces bandits ont emporté tous les biens des passagers et se sont dirigés dans la forêt avec 3 otages. Parmi eux, le révérend pasteur Ndiwe Lubula de l'église Sepak de Butembo et 2 autres passagers se faisant passer aux engins de l'ANER ont renseigné les responsables de l'agence des voyages de Butembo. D'ailleurs, le procès des présumés kidnappeurs à ville de Butembo a été renvoyé pour une date ultérieure.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
5h45, temps universel, les forces africaines et somaliennes poursuivent leur offensive contre les militants d'Al-Shabaab. Invité ce matin sur les ondes de la Voix de l'Amérique, Mahamat Saleh Anadif, le chef de la mission de l'Union africaine en Somalie, se déclare satisfait des opérations militaires en cours. La population est selon lui désireuse d'être libérée d'Al-Shabaab. Cependant, le représentant de l'Union africaine explique que la libération pose aussi des questions en termes de reconstruction. Écoutons cette interview de Timothée de Nangmaï qui a joint Mahamat Saleh Anadif.
Jusqu'à là, les opérations se sont bien passées, mais par principe, quand on fait des opérations militaires, sûrement il y a aussi des pertes. Mais ce qui est quand même à noter, c'est que nous avons trouvé une population vraiment désireuse d'être libérée d'Al-Shabaab, ce qui est un point positif. Mais l'autre point négatif, c'est que nous avons trouvé quand même des villes, des villages détruits. Aucune infrastructure n'existe. Donc ça pose vraiment le défi de reconstruire ces villes et villages. Ça pose vraiment le défi qu'il y ait des administrations, qu'il y ait stabilisation de ces villes. Parce que autant c'est bien de les libérer, mais autant assurer une stabilisation, les reconstruire demeure quand même un défi.
Est-ce que vous avez un nombre cible de localités à reconquérir? On parle d'une trentaine de localités.
Bon, on ne peut pas, c'est des opérations militaires, on ne peut pas donner des noms. Mais chaque secteur a quand même un certain nombre de cibles, d'objectifs à réaliser pendant cette période où on a prévu les opérations militaires. Plus précisément, on voulait que ça puisse se faire autant que possible avant l'arrivée massive de saison de pluie.
Vous avez parlé tantôt de la nécessité de stabiliser les villes qui sont reprises à Al-Shabaab. Où en êtes-vous dans les localités déjà conquises?
Il y a trois choses, en fait, au niveau des localités que nous avons conquises. Il y a vraiment les services minimums qui est urgent et que nous essayons de pouvoir le faire ça, au niveau de la mission même, à savoir comment refaire les quelques forages qui ont été détruits, produire un peu de quelques médicaments, essayer vraiment de reconstruire, pas seulement bâtir des édifices nouveaux, mais là où il y a une école qui a été démantelée, on essaie de la refaire, là où il y a un hôpital, là où il y a un poste de police, ce qui symbolise l'État. Au niveau de la mission, donc, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle les CUP Impact Project, les projets Impact Rapide, pour essayer un peu de soulager les populations. L'autre défi, c'est, regarde le gouvernement, c'est comment faire pour que très rapidement ils viennent en consultation avec les populations, nommer des administrateurs assez représentatifs pour rassurer et vraiment essayer quand même de gouverner ces régions qui ont pendant longtemps été sous la coupe d'Al-Shabaab. Troisième élément, c'est pouvoir les sécuriser au maximum ces régions pour que les humanitaires viennent secourir ces populations parce qu'il y a une situation humanitaire également très difficile.
Le chef de la mission de l'Union africaine en Somalie, Mahamat Saleh Anadif, entretien à retrouver sur notre site internet www.lavoixdelamérique.com.
La Voix de l'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays.
Parlons à présent du nouveau rapport d'Amnesty International sur l'application de la peine de mort dans le monde. L'année dernière, 778 personnes ont été exécutées. L'Iran est en tête du peloton avec 369 exécutions, suivi de l'Irak, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. On ne connaît pas les chiffres en Chine où l'application de la peine capitale est tenue secrète. Pour connaître la situation en Afrique, Iris Fall a joint Anne Denis d'Amnesty International France.
Les avancées sur le continent africain, c'est essentiellement en Afrique de l'Ouest. Le Bénin a ratifié un traité international, le deuxième protocole au pacte des droits civils et politiques, maintenant en train de le mettre en musique, si je puis dire, dans son code pénal. Le Ghana est en train de réécrire sa constitution avec l'abolition de la peine de mort. La Sierra Leone également est en train de revoir ses dispositions législatives pour aller vers l'abolition. La Sierra Leone est parmi les pays qui fait des progrès importants. Il y a eu une condamnation à mort qui a été prononcée en Sierra Leone. C'était la première depuis 2011. Il y a un processus de révision de la constitution qui est en cours en Sierra Leone et la commission des droits humains examine actuellement la question de l'abolition de la peine de mort.
Et les points négatifs alors?
En revanche, on a eu un recul, si vous voulez. Le Nigeria a repris des exécutions après des années de moratoire. C'est vraiment déconcertant parce que le président du Nigeria avait effectivement donné comme une espèce de feu vert aux États fédérés. 4 personnes ont été exécutées une semaine après les déclarations du président. En Afrique subsaharienne, il n'y a que 5 pays qui ont exécuté en 2013. Ce sont le Botswana, le Nigeria, le Soudan, Soudan du Sud et la Somalie. La grosse augmentation des exécutions s'est faite essentiellement en Somalie, qui est passée de 6 exécutions en 2012 à 34 exécutions en 2013. La Somalie, ça c'est un sujet d'inquiétude. Le Soudan maintient son niveau d'exécution. Ils ont exécuté 21 personnes. On peut imaginer que ces chiffres sont malheureusement plus importants.
C'était hier la journée mondiale du théâtre. L'événement a été célébré au Sénégal. Avec pour thème la violence faite aux femmes. À travers leurs pièces de théâtre, les comédiens ont dénoncé les pires abus commis envers la femme sénégalaise. Reportage de notre correspondante Djenaba Seydouba.
Des pleurs de femmes battues. Des disputes conjugales devant des enfants apeurés. Des fins tragiques de couple. C'est ce que les comédiens sénégalais ont montré sur scène pour marquer la journée internationale du théâtre. Le thème des violences faites aux femmes, bien suivi par les acteurs qui ont laissé exploser leur colère face à ce phénomène qui est toujours d'actualité. Avec sa troupe dinamanaire, Badara Diouf a raconté l'histoire d'un homme sans vergogne qui profitait des biens de son épouse.
La femme, c'est elle qui a tous les moyens. Elle a investi et c'est elle qui a acheté la maison. C'est elle qui donne l'argent à son mari. Au lieu que son mari lui rende la monnaie, et il bat la femme. En plus, en dehors de ça, il prend l'argent de la femme pour aller se balader dans les rues, courir les jupons, voilà, c'est ça. Nous, en tant qu'artistes, on s'est dit, nous, on va jouer de telle sorte que la violence faite aux femmes soit vraiment terminé définitivement aussi.
L'histoire racontée par Mam Mortoun et sa troupe Gumsabop est d'autant plus triste. Ces acteurs narrent l'histoire d'une femme qui a succombé à ses blessures suite à une vive altercation avec son époux.
Donc c'est plusieurs couples parce que l'État du Sénégal a instauré tout récemment les Badianougor qui vont vraiment parler avec ces femmes, ces couples, essayer de régler les problèmes à l'amiable pour éviter que ça dégénère.
Éduquer, sensibiliser les populations, surtout en ce qui concerne les droits de la femme, une priorité pour le théâtre sénégalais. Djenaba Seydouba, Dakar, pour la Voix de l'Amérique.
Place au sport. À présent, dans cette émission, nous accueillons Timothée Donangmaï. Bonjour Timothée.
Bonjour Nicolas.
En football, grande décision hier de l'UEFA qui a lancé une nouvelle compétition internationale.
Il s'agit de la Ligue des Nations qui démarrera en septembre 2018 et qui remplacera la plupart des matchs amicaux internationaux. Elle servira de qualification à l'Euro 2020 et pourrait être plus tard intégrée aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est une décision très importante pour l'avenir du football au niveau des équipes nationales, a déclaré le président de l'UEFA, Michel Platini.
Parlons aussi des quarts de finale de la Coupe du Monde des cadettes au Costa Rica. Ça s'est passé cette nuit et mauvaise soirée pour les sélections africaines. Le Ghana a été éliminé par l'Italie. De partout, à la fin du temps réglementaire, 4 tirs au but à 3 pour les Italiennes. Fin de parcours aussi pour les Nigérianes, sèchement battues par l'Espagne, 3-0. Le Venezuela sort le Canada 3-2 et le Japon se qualifie aux dépens du Mexique 2-0. En tennis, à Miami en Floride, la finale dames opposera Lina à Serena Williams. La chinoise a battu cette nuit Sibulkova en 3-7, 7-5, 2-6, 6-3. Serena Williams a continué sa domination de Maria Sharapova.
Avec un super service et des retours impeccables, la numéro 1 mondiale s'est imposée en demi-finale sur le score de 2-7 à 0, 6-4 et 6-3. Williams a remporté à ce jour 16 de ses 18 confrontations avec Sharapova. Chez les messieurs, Tomas Berdych s'est propulsé hier en demi-finale en battant Alexandre Dolgopolov en 2-7, 6-4 et 7-6.
Enfin, nous terminons par de la NBA, le championnat de basket nord-américain. Nouvelle défaite des Lakers, 105-108 à Milwaukee. Portland s'impose à Atlanta, 185. Et puis Houston domine Philadelphie, 120-98. Enfin, Dallas chute à domicile contre les Clippers de Los Angeles, 109-103. Le journal des sports avec Timothée Donangmaï. Place à présent à la pause musicale de cette émission. Nous accueillons Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Nico.
Roger, vous nous parlez ce matin de la chanteuse américaine Katy Perry.
C'est avec succès que l'exploitation de l'album Prism se poursuit. Katy Perry a récemment proposé un troisième extrait aux radios, 4 mois seulement après sa mise en rayon. Elle a fait de son titre Roar un tube planétaire et maintenant Dark Horse numéro 2 du hit parade américain.
Oh no. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J. Let's rage.
I knew you were. You were gonna come to me.
And here you are.
But you better choose carefully.
Cause I'm
capable of anything. Of anything.
Alors Roger, Katy Perry a reçu de nombreuses récompenses et autres nominations. Elle a été nommée pour 11 Grammy Awards et elle a été nommée par le Billboard comme la femme de l'année 2012.
Ah, à cette allure, Nico, l'on se demande si ça ne sera pas aussi le cas en 2014. Katy Perry promet d'exploiter le titre Legendary Lovers cette année. L'exploitation de l'album Prism semble déjà toute tracée. La chanteuse devrait enchaîner avec la chanson Birthday.
Merci beaucoup, Roger.
De rien, Nico. Bonne journée.
Roger Muntou, que vous retrouvez tous les soirs, 20h temps universel, pour le RM Show.
Mark my words, this love will make you levitate. Like a bird without a cage.
Down to earth,
if you choose to walk away, don't walk away. It's in the palm of your hand now, baby. It's a yes or a no,
no, maybe.
So just be sure, before you give it all to me. All to me.
She's a beast, I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shawty heart is on steroids cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty, I'm gon' put her in a coma. I think I love her. Shot it so bad, I sprung and I don't care. She wrapped me like a roller coaster, turned the bedroom into a fair. Her love is like a drug, I was trying to hit it and quit it. But lil' mama so dope, I messed around and got addicted.
Ian Albertson m'a rejoint dans ce studio pour un rappel des grands titres de l'actualité ce matin.
En Guinée, la crainte de la propagation du virus Ebola est désormais réelle. 4 cas de fièvre Ebola confirmés à Conakry par les autorités sanitaires guinéennes. Une 5e personne est morte avant les tests laboratoires. Au Mali, les 18 membres de la Haute Cour de justice ont prêté serment hier. Cela ouvre la voie à un éventuel procès pour haute trahison du président déchu Amadou Toumani Touré qui avait été renversé en mars 2012. L'Ukraine a obtenu hier une promesse d'aide financière du Fonds monétaire international. De 18 milliards de dollars, une assistance assortie de mesures d'austérité sévères. Après un long périple européen, le président Barack Obama est en visite aujourd'hui en Arabie Saoudite, au centre de ses discussions avec le roi Abdallah et la Syrie et les troubles dans la région.
Merci beaucoup Anne. Ainsi va s'achever notre émission. Je salue les fidèles du monde aujourd'hui. Félix Koyakote de la province orientale, c'est en République démocratique du Congo, mais aussi Adam Sanogo à Bamako, la capitale malienne. Comme eux, retrouvez-nous sur le www.lavoixdelamérique.com ou sur notre page Facebook. Anne Albertson et Nicolas Pineau vous ont accompagnés ce matin dans ce studio. Merci de votre fidélité à nos programmes. Une bonne journée, un excellent week-end à l'écoute de La Voix de l'Amérique.